permanente d'un rapport de force. Or, aujourd'hui, ce qui paraît ne plus exister, c'est la construction de ce rapport de force. On plie d'avance. Le genou est à terre. On ne se demande pas, bon, bah, est-ce qu'on règle, est-ce qu'on ne règle pas, qui est-ce qu'on règle, qui est-ce qu'on ne règle pas, à quelle hauteur. Ces questions ne sont plus posées, alors qu'elles l'ont été pendant des siècles. On cite une phrase de Kenneth Rogoff, donc, qui est un ancien chef économiste du FMI, qui écrit ceci. Entre 1500 et 1800, la France a répudié ses dettes en 8 occasions. Comme les rois de France avaient pris l'habitude de mettre à mort les grands créanciers nationaux, une forme ancienne et radicale de restructuration de la dette, le peuple avait fini par appeler ces épisodes des saignées. C'est-à-dire que c'était devenu une tradition. À la fois opérer la banqueroute et éventuellement, si les rentiers et les banquiers se rebellaient, d'y aller un peu plus vivement sur le terrain de la prison et ainsi de suite. Quoi.
Donc c'est dans cet agenouillement et dans cette soumission du pouvoir politique au pouvoir des rentiers et des financiers que vous voyez un risque pour la démocratie que Johan Dubigeon vient de définir, non pas comme la démocratie représentative actuelle, mais une démocratie que vous souhaitez évidemment plus directe.
Oui, effectivement, mais moi je rejoins bien ce que vient de dire François justement. L'intérêt de cet exemple historique, c'est de voir à quel point aujourd'hui, alors que formellement justement, on est censé avoir un pouvoir politique représentatif du peuple, à quel point aujourd'hui on a une collusion entre les créanciers, donc le pouvoir financier, et les représentants politiques, qui est extrêmement forte, peut-être plus forte encore qu'à cette époque-là. Donc c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui se radicalise, et aujourd'hui même des exemples d'actualité très concrets, comme l'affaire Cahuzac, comme tout un tas d'affaires, la question des paradis fiscaux, montrent à quel point justement cette collusion entre classe politique et classe des financiers, elle est extrêmement forte.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de généraliser? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on nous présente les choses. On nous présente Cahuzac comme le fruit pourri dans le panier et il faut l'enlever. On nous présente toutes ces affaires-là comme des dysfonctionnements dont on va s'occuper, que dénonce la presse la plus courageuse et la plus engagée.
En fait, et c'est ce que vient de dire Thomas en partie, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Il faut voir que, par exemple, on estime que l'évasion fiscale aujourd'hui en France, ça représente entre 60 et 80 milliards d'euros par an. C'est quand même plus que le budget de l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas un petit Jérôme Cahuzac ou un ministre par-ci, par-là, qui serait l'unique brebis noire dans le troupeau, je dirais. C'est vraiment un problème plus profond que ça. Alors certes, on ne va pas nourrir dans la démagogie à dire que tout se pourrit, etc. Ce n'est pas forcément ça le problème. Le vrai problème, c'est de voir justement qu'il y a vraiment une fracture réelle entre les représentants politiques et les représentés, c'est-à-dire le peuple, la majorité de la population et des citoyens. La question de la dette, on ne peut pas justement la régler de manière purement technique, mais qu'elle a vraiment quelque chose à voir avec cette question de la réappropriation démocratique. Ça passe par des choses concernant les banques, voilà, on parlait de la levée du secret bancaire, la question de l'interdiction des paradis fiscaux, mais au-delà de ça, ça passe par des questions politiques de justement comment faire en sorte que les politiques ne soient pas au service de cette couche de financiers.
Mais alors, votre réponse à la question que vous vous posez, c'est quoi?
Alors,
comment faire en sorte que...
La réponse, alors,
nous,
ça peut être...
des questions. C'est moi qui les pose, les questions. C'est vous qui apportez les réponses.
Non, mais les réponses que nous, on propose, c'est que déjà, de toute façon, ça passe par la question des mobilisations populaires. C'est-à-dire que la question du rapport de force, à quel point est-ce qu'on peut peser, au minimum peser sur nos représentants pour dire, attention, il y a un véritable problème démocratique, c'est à nous de choisir à qui on paye cette dette, pourquoi on la paye, est-ce qu'on la paye ou non. Cette mobilisation-là, qu'est-ce qu'elle peut porter, à notre avis, comme type de proposition de revendication? D'un point de vue politique, c'est des choses aussi concrètes que l'interdiction du cumul des mandats. Et l'idée aussi que le vrai problème de fond, c'est que la plupart des représentants sont complètement déconnectés de la réalité. Donc c'est l'idée de dire, par exemple, des choses qui ont existé historiquement, puisqu'on parle d'histoire, la Commune de Paris. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Commune de Paris, à la fin du 19e siècle? Elle a décrété déjà première chose que les représentants allaient avoir le revenu moyen, c'est-à-dire... On calculait le revenu moyen de la population et allait gagner la même chose. Ça, c'est une première chose. Il y avait l'idée que toute la fonction publique, et pas uniquement les représentants politiques, mais l'ensemble de la fonction publique, devait être élue et devait être révocable en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on élit François Hollande sur un programme, tout le monde se rend bien compte qu'il n'applique absolument pas même les quelques promesses qu'il avait faites, et pourtant, on est obligé d'attendre 5 ans. D'attendre que ça se passe, éventuellement d'aller protester dans la rue avec le maigre espoir que ça puisse changer des choses. Donc la question de la révocabilité permanente, ça c'est un autre point. Et au-delà de ça, nous ce qu'on défend aussi dans ce bouquin-là, c'est l'idée de dire que une démocratie, entre guillemets, plus directe, par en bas, etc., ça peut pas être uniquement quelque chose de formel. Vraiment, l'idée de fond, c'est l'idée de réappropriation démocratique.